Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans les trois précédentes émissions, nous avions commencé à relire les grands épisodes clés de la vie et de la vocation de Moïse dans le livre de l'Exode. Nous sommes arrivés au pied du mont Sinaï où Yahvé, par l'intermédiaire de Moïse, vient de conclure une alliance avec le peuple des fils d'Israël après l'avoir libéré de l'oppression égyptienne. Nous poursuivons l'étude du décalogue amorcé la semaine dernière et nous nous situons au chapitre 20, versets 1 à 18, dans la Bible de Jérusalem, pour que nos auditeurs puissent avoir le texte sous les yeux s'ils le souhaitent. Alors nous allons entrer un peu plus dans le détail de ce texte du décalogue. On peut découper ce texte en trois ensembles de paroles. Au début, un ensemble de trois interdits concernant Dieu. À la fin, un ensemble de cinq interdits concernant le prochain. Entre les deux, un ensemble de deux préceptes positifs concernant Dieu et le prochain, qui portent, vous vous en souvenez, sur le respect du Shabbat et le fait d'honorer ses parents. Comment peut-on interpréter cette structure emboîtée très particulière qui va de Dieu au prochain, père Alain ?
Oh, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui va concerner le rapport à Dieu, c'est-à-dire Dieu qui a libéré son peuple, attend de ce peuple qu'il restitue à Dieu sous des formes différentes, à travers un culte, à travers des exigences qu'on verra tout à l'heure, et en même temps, ce peuple est appelé aussi à avoir des exigences envers ses frères. C'est la dimension horizontale, on pourrait dire, d'une loi qui ne s'arrête pas à cette horizontalité qui touche Dieu, mais qui concerne aussi la vie du peuple, qui est peuple élu, mais peuple aussi appelé à vivre ensemble, et donc avec des règles assez précises et assez rigoureuses pour faire que cette vie soit une vie à la fois belle et harmonieuse.
Alors, on peut peut-être maintenant reprendre le texte verset par verset, parce que ce sont des formulations qui sont assez denses et on va pouvoir peut-être essayer de les décrypter. Alors, la première formulation, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Ce verset indique qu'il est interdit donc d'avoir d'autres dieux que Yahvé. Dans le contexte rédactionnel du texte, quels auraient pu être les autres dieux dont il est question ? Et s'agissait-il déjà d'une affirmation du monothéisme ?
Alors, c'est un peu délicat de le dire. C'est vrai que cette partie-là est évidemment très, très nouvelle et très originale. De dire « tu n'auras pas d'autres dieux devant moi », c'est une façon, si on interprète cette formule qui est traduite assez justement de l'hébreu, elle ne dit pas « il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». C'est donc une façon de dire « il peut y avoir un monothéisme qui accepte aussi d'autres dieux ». Israël a connu d'autres dieux autour de lui, et les peuples environnants avaient leur propre dieu, et cette idée que chaque peuple a ses dieux était une idée qui était très répandue. Et même, et c'est là sans doute que nous touchons du doigt l'originalité d'Israël, Israël ne doit vénérer qu'un seul dieu. Et donc, on trouve par exemple dans les textes de Mésopotamie des phrases très curieuses. Les Mésopotamiens étaient des gens très religieux. Et dans les prières, par exemple, qu'ils faisaient, on a des textes qui disaient quelque chose comme ceci. « Je te rends grâce, toi, Dieu », et il donnait son nom. Et puis on ajoutait « soit que tu t'appelles d'un autre nom. C'est-à-dire, on avait toujours peur de manquer le vrai Dieu. Donc, on n'était jamais sûr que ce soit le nôtre qui était le meilleur, d'autant plus que dans l'Antiquité, il y avait souvent des dieux pour toutes les réalités. Il y avait le dieu de la guerre, il y avait le dieu des moissons, il y avait le dieu de l'amour, il y avait des dieux pour chaque catégorie, au fond, de la pratique de l'homme, et c'était pratique, il y avait des dieux différents. Et donc, la tentation, Israël va souvent être tenté par ces dieux. Et ils vont vivre dans des pays où il y avait une multiplicité de dieux, et Dieu aura une exigence, il y aura des péchés. On a même trouvé des textes avec des statues dans certains endroits où il y avait, à côté de Yahvé, il y avait une paraître, c'est-à-dire une divinité féminine. Ça veut dire donc que la religion populaire s'est autorisée à certaines fois de rajouter à Dieu d'autres dieux. Ça veut dire, et pourtant, la loi d'Israël, il y aura des décadences, bien sûr, dans l'histoire d'Israël. C'est pour ça que c'est intéressant de voir posé au sommet de l'histoire du décalogue et de la loi que Dieu donne à son peuple, cette exigence, tu n'auras pas d'autres dieux que moi. C'est-à-dire, plus tard, on en reparlera sans doute plus tard, au moment de l'exil, on découvrira que non seulement tu ne peux pas avoir d'autres dieux, mais on découvrira qu'il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire, on va entrer dans un monothéisme absolu. Mais c'est assez dans les années 550, mais pas avant. Jusque-là, c'est... Mais on ne doit pas vénérer le dieu des autres. Et c'est déjà une progression par rapport à ce qui existait à ce moment-là.
C'est là où prend tout son sens l'épisode qu'on avait relu précédemment, où Moïse reçoit le nom de Dieu à l'Horeb, donc le fameux tétragramme,
oui,
qui vient remplacer Elohim, qui était un pluriel.
Voilà, Elohim, c'est le pluriel, c'est les divinités. Et Yahvé, c'est un nom propre. Alors, on dit Adonai, on ne le prononce pas, mais c'est évidemment un Dieu unique, un Dieu qui ne supporte pas à côté de lui d'autres dieux, pas simplement parce qu'il ne les supporte pas, mais parce que Israël le découvrira un jour, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est le seul Dieu unique.
Alors, la deuxième formulation, le deuxième commandement, est beaucoup plus particulier. Je vais d'ailleurs le relire en entier, il est un petit peu plus long. « Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux au-dessus de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. » Donc là, on a une formulation qui est quand même assez longue, mais on a envie de retenir le début. « Tu ne te feras aucune image sculptée. » Alors, quelle est la signification de cet interdit d'image, finalement, qui est d'ailleurs toujours en vigueur dans le judaïsme ?
Oui, on peut déjà faire d'ailleurs une remarque à ce stade. Le décalogue, dans sa formulation primitive, était très bref. Et donc, quand il est déployé, comme c'est le cas ici, évidemment, c'est la trace d'un travail ultérieur qui a voulu compléter, donner des détails. Donc, normalement, tu ne te feras aucune image sculptée. Ça disait suffisamment de choses pour cette idée, d'ailleurs, unique, hein, qu'on ne trouve pas chez beaucoup de peuples, cette idée que notre Dieu, ce Dieu d'Israël, est un Dieu qui est irreprésentable. C'est véritablement quelque chose qui demeure encore aujourd'hui. C'est un Dieu qui ne peut pas être repris, dépeint. Il est un Dieu absolu, mais un Dieu insaisissable d'une certaine manière, parce qu'on ne peut pas le représenter. Et donc, la tentation de l'homme, on le sait bien, hein, va être de le faire, de le représenter, de faire des peintures, etc. Parfois, même Israël va céder. On a des cas où on voit bien qu'Israël a essayé de représenter. Mais nous, chrétiens, j'anticipe bien sûr, mais on va s'autoriser de la représentation de Dieu uniquement à partir du moment où Dieu va nous envoyer son Fils. C'est-à-dire, on aura la possibilité d'en faire des images parce qu'il a pris corps et qu'il a pris chair avec nous. Mais jusque-là, pour Israël et encore aujourd'hui, il est interdit absolu de se représenter avec, d'ailleurs, si vous avez bien noté ce que vous venez de lire, vous avez dit « Je suis un Dieu jaloux ». Ça veut dire que cette jalousie de Dieu montre bien que Dieu, le Dieu d'Israël, au moins le Dieu un peu tel qu'il était dans leur image à ce moment-là, est un Dieu qui avait d'autres dieux autour de lui. Les dieux qui étaient eux-mêmes puissant, et donc Dieu est jaloux, c'est-à-dire il ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est à la fois, il veut un seul peuple et un seul Dieu. C'est très beau, cette alliance entre Dieu. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'émouvant quand on regarde ça de près, cette alliance au fond entre un Dieu qui s'est révélé à Moïse avec sa grandeur, et puis un peuple finalement dont on s'aperçoit très vite que c'est un peuple faillible, un peuple pécheur, un peuple... Et Dieu quand même s'allie avec ce peuple. C'est la beauté au fond de l'histoire d'Israël et de la nôtre, parce que le Christ va venir au terme de notre histoire, et nous, les chrétiens, vous avez certains pères de l'Église qui ont voulu, c'est peut-être évidemment trop anticipé, mais qui ont voulu voir dans la venue de Yahvé, la révélation de Yahvé à Moïse, déjà une certaine anticipation de la révélation de Jésus. Et certains auteurs, et je m'arrête un peu sur ces commentaires parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, certains auteurs se sont posé la question, des auteurs juifs, en disant pourquoi Dieu est-il apparu dans le désert au lieu d'apparaître à Jérusalem? Ça aurait été plus facile. Si Dieu s'était manifesté à Jérusalem, dans la capitale du peuple juif, il l'avait à portée de main. Eh bien, les commentateurs juifs disent non, il s'est révélé au désert pour que personne ne puisse dire « c'est pour moi seul que Dieu est apparu, il est apparu pour le monde entier ». Donc il y avait déjà dans cette idée de la révélation du Sinaï une dimension universelle qui va éclater à la fois pour les juifs et pour nous les chrétiens.
Alors il y a peut-être quand même une exception à cet interdit de représentation de Dieu, de l'image de Dieu dans la Genèse, quand il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu.
Oui, là c'est évidemment un rapprochement audacieux que vous faites, c'est-à-dire l'image, ça veut dire qu'il est un face-à-face avec l'homme, il est la seule image possible de Dieu. Dieu se donne un vis-à-vis qui est à l'image de Dieu avec le... Oui, une certaine grandeur, même si c'est évidemment une infériorité évidente, mais c'est une manière de dire, au fond, le seul visage de Dieu qu'on puisse avoir, c'est l'homme. En dehors de l'homme, il n'y a pas d'autre représentation divine de Dieu qui soit possible. L'homme est à l'image de Dieu. Représentation, c'est son vis-à-vis d'une certaine manière. Au départ, ça a été le roi qui était l'image de Dieu. Beaucoup de peuples ont considéré que c'était le roi. Ici, dans ce texte que vous avez cité, c'est un texte évidemment assez tardif. Hein, le premier chapitre de la Genèse, c'est sans doute parmi les derniers chapitres qui ont été écrits. Donc il y a déjà là une spiritualité très forte, une capacité de penser le mystère de l'homme face à Dieu comme image de Dieu, mais pas au sens polythéiste que l'on pourrait trouver autrement.
Ce qui sera encore plus audacieux, vous l'avez dit juste avant, c'est qu'à un moment donné, un homme, image de Dieu, s'appellera Jésus.
Oui, c'est vrai.
Alors, on continue avec le troisième commandement, là, au verset 7. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, à faux. Cette formule n'est pas facile à comprendre, Père Alain. De quoi s'agit-il?
Elle est un peu à relier avec la précédente, c'est-à-dire, il est interdit d'utiliser le nom de Dieu pour justifier des pratiques, pour... donner des promesses, pour s'engager, pour jurer sur telle ou telle chose. On n'a pas le droit d'utiliser le nom de Dieu. Donc c'est une manière un peu qui prolonge un peu le fait de ne pas prononcer le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu est sacré, surtout de ne pas le prononcer de manière injuste, pour commettre une injustice à faux. Et donc c'est une manière aussi d'interdire d'utiliser le nom de Dieu pour des usages, on pourrait dire, qui sont prohibés dans... la justice du peuple d'Israël.
Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le blasphème?
Ça pourrait ressembler, mais blasphème c'est un mot moderne qu'on utilise. Oui. On pourrait dire non, c'est plus, oui, une manière de pécher contre Dieu par un mensonge et donc une injustice.
Donc on vient donc de passer en vue les trois premiers commandements qui concernent Dieu, qui se concernent la relation à Dieu. Et maintenant, on va aborder les deux suivants qui font un peu une transition parce qu'ils évoquent à la fois Dieu et le prochain. Alors, le premier, je vais le relire. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras, mais le 7e jour est un Shabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. car en six jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du Shabbat et l'a consacré. Donc là, on a un commandement, un précepte qui instaure finalement le souvenir et la sanctification de ce jour du Shabbat, car Dieu s'est reposé le septième jour. Ce précepte positif implique à la fois Dieu et l'homme. Il est encore aujourd'hui un marqueur fort du judaïsme et de l'identité juive. Comment peut-on interpréter ce quatrième commandement du Décalogue, Père Alain ?
Alors, on peut penser que c'est un verset charnière, passage qui va nous faire passer du côté divin au côté de l'homme, et qui évoque à la fois la relation à Dieu et l'attitude de l'homme. Le jour de Shabbat, l'ampleur de ce commandement nous laisse entendre que c'est assez tardif. C'est un texte qui a été sans doute composé dans une époque où Israël avait besoin de se donner des commandements assez rigoureux, peut-être après l'exil. Certainement, dans la formulation longue, il est assez tardif. Et vous vous rappelez bien sûr que dans les premiers chapitres de la Genèse, on évoque aussi le Shabbat, qui est le temps du repos. Le septième jour, Dieu se repose. Et c'est là le fondement du repos de Dieu dans la réflexion des poètes qui ont écrit la Bible. Et donc, ici, nous avons un peu la même thématique. Cet interdit de l'ouvrage, avec des justifications théologiques. Donc, c'est évidemment là, on est un peu dans un autre registre. Hein. C'est plus du tout le registre de la rigueur, de la simplicité, des termes très courts. En général, les lois fortes sont des lois brèves. Il faut qu'on puisse les enregistrer définitivement. Là, c'est certains déploiements d'un récit qui manifestent bien sûr des relectures et des développements plus tardifs. Mais on les a inscrits à l'intérieur même du Décalogue. À mon avis, au début, elles ne devaient pas y être.
Surtout que dans la pratique du Shabbat chez les Juifs, il y a une dimension un peu festive quand même.
Oui, oui, ça n'empêche pas.
Familiale, etc. Oui. Alors justement, il y a quelque chose là qui m'a un peu surpris. Il y a une énumération de toutes les personnes qui sont concernées, dont c'est essentiellement toute la famille, le fils, la fille, le serviteur, la servante, mais aussi l'étranger qui est dans tes portes. C'est-à-dire que, si je comprends bien, un étranger de passage doit pratiquer ce Shabbat, même s'il n'est pas spécifiquement croyant ou appartenant au judaïsme, etc.
Mais ça, c'est tout à fait classique. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des étrangers en Israël. Mmh. Et les étrangers avaient certaines facilités, mais il y avait aussi des exigences. Et donc, ils étaient tenus de respecter les lois fondamentales, comme la loi du Shabbat, qui était considérée comme une loi universelle. Et donc, il ne faut pas s'en étonner, y compris les animaux d'ailleurs. Hein, les animaux, avec l'évangile, on trouvera un petit peu des thèmes de ce genre-là. Lorsque Jésus guérit quelqu'un un jour de Shabbat, et Jésus se défend en disant « Mais si ton animal tombe le jour de Shabbat, est-ce que tu as le droit de le sauver ou pas ?» Et du coup, c'est une thématique qui a été reprise souvent dans la rhétorique ancienne et dans la casuistique, on pourrait dire, parce que là, on n'est plus dans la loi, par définition, elle est simple. Hein. Dès qu'une loi se complexifie, ça veut dire qu'elle est tardive d'abord, et qu'elle a donné sujet à des doutes. On le voit bien même dans nos législations aujourd'hui, quand on a des doutes sur certains textes, on les amplifie, on les commente. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est un texte, au fond, qui n'est pas facile, parce qu'il a fallu déterminer un certain nombre de choses, de détails, qui sont mises là en pratique et qui sont évidemment intéressantes par rapport à un moment de l'histoire d'Israël, mais qui vont, effectivement, vous l'avez dit, valoir définitivement, puisque pour Israël, le Shabbat, c'est véritablement un lieu, un temps sacré, et qui le reste, au moins pour tous ceux qui sont des pratiquants.
Est-ce qu'il y a un lien, finalement, avec le dimanche chrétien ?
C'est l'inverse, c'est-à-dire que le Shabbat précède bien sûr le dimanche,
oui, oui.
Mais ça a un lien avec le septième jour.
Oui, c'est ça, le fait qu'il y ait un jour du Seigneur.
Donc, oui. Les chrétiens se sont inscrits directement dans la foulée du judaïsme, et Jésus étant mort le samedi, le dimanche va se substituer au fond au Shabbat, c'est-à-dire du fait qu'il est ressuscité le troisième jour. Et donc, mais il y a un lien évidemment, hein, le jour du dimanche est aussi un jour chômé qui a la même dynamique au fond que le Shabbat des Juifs.
Eh bien, nous allons en rester à ce repos du Shabbat avant de reprendre la suite de notre étude la semaine prochaine. Nous sommes au terme, donc, très rapidement de cette émission, cette deuxième émission consacrée au Décalogue. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir aidé à relire ce texte du Décalogue et à le décrypter. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.